Saviez-vous que le mot mission n'est pas biblique, c'est-à-dire il ne se trouve nulle part dans les pages de la Bible. C'est un concept. Il a été inventé durant la moitié du XXe siècle par Leslie Newbegin. Lui, il a été missionnaire en Asie du Sud, notamment en Inde. Leslie était très frustré parce que les nouveaux chrétiens indiens ne s'engageaient pas dans la propagation de l'Évangile. Il pensait que c'était la responsabilité exclusive des missionnaires ou des étrangers. C'est ainsi qu'ils ont pu développer une mentalité de dépendance vis-à-vis de ces missionnaires. Leslie était convaincu que les chrétiens indiens pouvaient être plus efficaces dans la propagation de l'Évangile que les missionnaires étrangers. Pour Leslie, parvenir à équiper les chrétiens ordinaires est la clé de l'expansion du christianisme en Inde. Il était convaincu que chaque chrétien était un missionnaire. Salut à vous, mon ami. Causerie sur la mission vous est apportée par Wendell Benjamin Etienne Webb depuis la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso, le pays des hommes intègres, le pays de Thomas Sankara. Notre question aujourd'hui est formulée de la manière suivante. Existe-t-il des excuses valables pour ne pas s'engager dans la propagation et l'expansion de la foi chrétienne dans le monde? Les excuses pour ne pas s'engager dans la grande commission. Tel est notre sujet. Bon visionnage à vous. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et d'églises avancent beaucoup d'alibis pour ne pas s'engager dans la grande commission. Ils ont beaucoup d'excuses. Et la première excuse qu'on entend souvent, c'est « je n'ai pas ce qu'il faut » ou « nous n'avons pas ce qu'il faut ». Ces chrétiens ou ces églises se trompent grandement. Parce que, en réalité, Jésus n'a jamais posé comme condition pour être ses disciples, il faut être académicien, philosophe, scientifique, etc. Dieu ne cherche pas des super-héros, des hommes et des femmes extraordinaires pour accomplir sa mission dans le monde. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Dieu cherche des hommes ordinaires en qui sa puissance est capable de les enflammer pour enflammer ce monde à sa gloire. Écoutez ce que Actes chapitre 4, le verset 13 nous dit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Écoutez bien, mon ami, ce verset n'est pas en train de nous dire que pour être disciple de Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'aller à l'école, à l'université, et que la puissance du Saint-Esprit nous suffit. Quelques semaines de cela, j'étais en compagnie d'un pasteur et quelques autres chrétiens. Et là, j'ai vu un jeune homme. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il comptait retourner à l'école. Parce que je savais que la rentrée des classes était proche. À mon grand étonnement, le pasteur m'a répondu, lui, il ne veut plus retourner à l'école. Il veut se consacrer à l'œuvre du Seigneur. J'étais très choqué comme quoi se consacrer à l'œuvre du Seigneur est l'œuvre de ceux qui ne sont pas éduqués, de ceux qui sont sans instruction. Ce verset met l'accent sur le fait qu'en réalité, Dieu peut utiliser n'importe qui dans l'accomplissement de son œuvre dans le monde. Et la preuve en est bien grande. Paul était un savant. Il était très versé dans la philosophie grecque, dans le judaïsme, etc. Et les versets 19 et 20 du chapitre 4 du livre des Actes nous disent « Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » À partir de ces versets, j'arrive à comprendre que Pierre et Jean ont posé à ce moment-là une maxime. Je crois donc je parle. Je crois donc je témoigne. Je ne peux ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. En d'autres termes, Pierre et Jean ont affirmé que leur foi en Jésus-Christ repose sur trop d'évidence pour garder le silence. Mon ami, écoutez bien. Notre foi en Jésus-Christ repose sur trop d'évidence biblique et historique pour garder le silence, pour ne pas parler pour lui. La deuxième excuse qu'on entend souvent, c'est « l'évangélisation n'est pas mon don ». Ces chrétiens se trompent grandement. Ces chrétiens confondent don spirituel et responsabilité chrétienne. L'évangélisation ou la grande commission, c'est une responsabilité qui incombe à tout disciple de Jésus-Christ. Il ne faut pas confondre don spirituel et responsabilité chrétienne. Évidemment, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Dans le corps de Christ, Dieu ou le Saint-Esprit distribue des dons particuliers et parmi ces dons, il y a l'évangéliste. Mais l'évangélisation n'est pas seulement la responsabilité de quelqu'un ayant le don d'évangéliste. C'est une mission globale qui concerne tous les appelés, tous les disciples de Jésus-Christ. Car en Actes chapitre 8, les versets 1 et 4, nous trouvons ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution dans l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, a souligné, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Le verset 4 nous dit, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Après la mort d'Étienne, il y a eu une grande persécution à Jérusalem. Le texte nous dit clairement que tous, c'est-à-dire tous les chrétiens qui étaient à Jérusalem, à l'exception des apôtres, se dispersèrent. Et là, en Judée, là où ils étaient dispersés, ils ne cessaient de répandre la bonne nouvelle. Ils étaient des chrétiens ordinaires. Ils n'étaient pas des apôtres, ils n'étaient pas des évangélistes, mais des disciples de Jésus-Christ. Ils comprenaient qu'en tant que tels, il est de leur responsabilité, de leur devoir de parler de leur foi. Dans ce contexte, Timothée nous dit « Tous les chrétiens n'ont pas l'appel missionnaire, mais tous les disciples de Christ sont des chrétiens appelés à avoir une vision du monde. Un chrétien ayant une vision du monde, c'est quelqu'un qui a tellement à cœur la gloire de Dieu et la gloire de son plan pour le monde, qu'il fait tout en accord avec la mission de Dieu, c'est-à-dire remplir la terre avec la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. » Selon Habacuc, chapitre 2, le verset 14. Habacuc 2, le verset 14, c'est un verset extraordinaire. N'est-ce pas ça notre désir? N'est-ce pas ça notre passion? Que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel. Parce que là où il y a la connaissance de l'Éternel, il y a la liberté. Là où il y a la connaissance de l'Éternel, il y a la justice. Là où il y a la connaissance de l'Éternel, il y a l'amour. Nous soupirons tous après la gloire de Dieu. Mais écoutez bien, lorsque nous observons le monde, ce qui se passe dans le monde, les choses terribles, drôles qui se passent dans notre monde, ne devons-nous pas nous mettre en action pour que la connaissance de Dieu remplisse toutes les contrées de la terre, tous les villages et toutes les villes? Oh, que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel, car connaître Dieu signifie avoir une relation d'intimité avec lui. Avoir une relation personnelle avec lui. C'est ça notre responsabilité. C'est de parler pour Dieu afin que les hommes et les femmes puissent arriver à le connaître. Si notre village est rempli de la connaissance de l'Éternel, si notre ville est remplie de la connaissance de l'Éternel, là, nous pouvons espérer ses plus riches bénédictions. Vous savez quoi? Plus nous nous investissons dans la grande commission, plus il y a possibilité que la justice, l'équité règne dans nos villes, dans nos familles. Plus nous ne prenons pas à cœur la mission de Dieu dans le monde, plus nous laissons le libre champ à l'ennemi de détruire ce que Dieu a créé. Notre monde a besoin de la connaissance de l'Éternel. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais c'est avoir une relation personnelle avec ce Dieu créateur. Il est, à mon avis, de notre intérêt de nous engager dans la grande commission. Parce que la connaissance de l'Éternel libère, elle ouvre les yeux. La troisième excuse qu'on entend souvent, c'est « Je suis un témoin à partir de mon comportement ». C'est-à-dire, Une fois que j'ai une bonne attitude, une attitude morale, exemplaire, un bon comportement, c'est suffit. Je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin d'argumenter, je n'ai pas besoin de discuter. Ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Évidemment, nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre une vie morale, une vie exemplaire. Marchons honnêtement comme en plein jour. C'est notre appel, un appel à la sainteté, un appel à la pureté. C'est normal. Ça, c'est le témoignage muet, c'est-à-dire sans même parler, sans témoigner, sans prononcer un mot, mon mode de vie constitue un témoignage. C'est le témoignage sans parole. Mais le témoignage avec parole est tout aussi important, car prenons l'exemple de Jésus, qui a jamais dans le monde vécu une vie aussi morale et exemplaire que Jésus. Personne. Jésus faisait absolument la volonté de Dieu. Il est le seul à avoir pu accomplir le standard moral de Dieu. Pourtant, il a parlé. Est-ce que son comportement exemplaire moral était suffisant? Non. Il a compris qu'il faut parler. Il faut parler là où il faut parler. Il faut garder le silence là où il ne faut pas parler. Donc, nous avons ces deux témoignages, le témoignage muet, c'est-à-dire le témoignage sans parole, et le témoignage avec parole. Écoutez bien, il ne suffit pas de vivre une vie chrétienne normale, exemplaire. C'est Saint François d'Assise qui a dit « Prêchez l'Évangile, si c'est nécessaire, utilisez des mots. » C'est important ce que Saint François d'Assise nous dit, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons parler, nous devons communiquer. Il y a aujourd'hui évidemment un élan à l'évangélisation par le service, EPS, l'évangélisation par le service, c'est-à-dire servir l'autre, servir mon voisin, servir ma communauté sans pourtant proclamer l'évangile. C'est important, c'est un aspect important, mais je le répète, ce n'est pas suffisant. Donc l'évangélisation par le service où le témoignage muet est un élément. Ça complète le témoignage avec parole. La quatrième excuse qu'on entend souvent, c'est « je n'ai pas de temps ». En réalité, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de temps pour évangéliser ou pour s'engager dans la mission globale devraient dire « ce n'est pas ma priorité ». La Grande Commission n'est pas ma priorité. Car en réalité, nous avons toujours du temps pour ce qui est prioritaire. Si dans votre église, l'évangélisation, c'est pas fondamental, c'est pas essentiel, donc vous n'allez pas y consacrer du temps. Mais si c'est un élément essentiel, si c'est ça qui décrit la raison même de votre existence en tant qu'église, en tant que disciple de Jésus-Christ, vous allez y consacrer du temps. Car en réalité, l'évangélisation est plus informelle que formelle. Et il y a un piège que les églises d'aujourd'hui devraient éviter. Nous devons nous poser plein de questions quand nous voyons que notre église, notre assemblée est remplie de fidèles. D'abord, il y a deux éléments qui expliquent pourquoi beaucoup d'assemblées regorgent de fidèles. Le premier élément, c'est la croissance biologique. C'est-à-dire des gens qui sont dans l'Église, qui enfantent et leur progéniture reste à l'Église. Comme ça, l'Église, numériquement, grandit. Mais il y a un autre élément, c'est la filiation. Il y a des gens, à cause de la mouvance sociale, les gens, surtout pour les églises en ville, des gens qui laissent la campagne, les villages et qui viennent dans les villes, les grandes villes. Et comme ça, comme ils étaient chrétiens dans leur village, dans leur communauté, donc ils cherchent une église à laquelle s'affilier. Donc quand vous voyez que votre église est remplie de gens, vous devez vous poser plein de questions. Est-ce que c'est la conséquence d'une évangélisation bien faite, d'un travail d'évangélisation bien accompli, ou bien c'est la croissance biologique ou bien la filiation? Écoutez ce que Éphésiens 5, verset 16-17 nous dit dans la version Semeur. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Nous vivons des jours mauvais. Ne soyez pas déraisonnables. Mettez à profit le temps que vous avez. La question c'est, est-ce que vous mettez à profit votre temps? Est-ce que vous n'êtes pas déraisonnable en disant que vous n'avez pas du temps pour évangéliser ou pour vous investir dans la grande commission? Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous pour parler de Jésus-Christ. Comme a dit Paul à Timothée, prêchez l'évangile, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ne ratez pas les occasions qui se présentent à vous pour parler de Jésus-Christ et pour supporter l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Le Seigneur Jésus attend deux choses de vous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la première chose que Dieu attend de vous. La deuxième chose, c'est vous investir dans la grande commission. C'est-à-dire le représenter en tant que son ambassadeur dans le monde. Voilà deux choses que le Seigneur attend de vous. La cinquième excuse, prêcher l'évangile me rend ridicule. Donc je me sens un peu gêné de parler de Jésus-Christ. Je me sens un peu petit de parler de Jésus-Christ, comme quoi parler de Jésus-Christ, c'est un signe de bassesse, un signe de petitesse. C'est l'affaire des ignorants, c'est l'affaire des illettrés. Je me sens ridicule. Cette excuse, mon ami, n'est pas valable. Car Paul a dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, selon Romains, chapitre 1er. Et le verset 16. Et apôtre Pierre nous invite à grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Quand on grandit dans ces deux aspects-là, on n'a pas honte de Jésus-Christ. Quand on grandit dans ces deux aspects-là, on est passionné de Jésus-Christ. On n'a pas peur. On n'a peur de rien dans le monde. Donc, si pour vous prêcher l'Évangile ou investir dans la grande commission, ça vous rend ridicule, c'est un signe d'immaturité spirituelle. Car celui qui est mature spirituellement prend ça comme un privilège. Pas seulement une responsabilité, mais un privilège de parler et même de souffrir pour Christ. Et apôtre Pierre nous invite également à nous armer en tant que chrétiens pour donner raison à notre espérance à quiconque nous l'aurait demandé. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Apôtre Pierre nous invite à la croissance, nous invite à la maturité, nous invite à la connaissance, à la sagesse. Parfois, nous nous sentons ridicules dans la propagation de l'Évangile parce que nous n'avons pas les bonnes stratégies, parce que nous sommes avides, nous sommes à court d'arguments. Nous ne savons pas ce que nous devons dire, comment approcher les gens effectivement. L'Évangile en lui-même n'est pas ridicule. La sixième excuse avancée par beaucoup de chrétiens d'église pour ne pas s'engager dans la grande commission est « j'ai peur d'être attaqué par des démons ». Évidemment, c'est une réalité. Les démons existent. Ils sont à l'œuvre. Ils étaient à l'œuvre à l'époque de Jésus-Christ. Ils le sont encore aujourd'hui dans nos églises, dans nos sociétés, dans nos pays, dans nos villages. Les démons existent. Ils sont méchants. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont très superstitieux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises qui sont très superstitieuses. Malheureusement, beaucoup de cultes aujourd'hui sont transformés en des assemblées où les démons sont à l'honneur. On connaît les noms de tous les démons, de tous les esprits qui existent. Très peu de chrétiens peuvent vous dire ce que El Shaddai, Adonai signifie. Ils ne les connaissent même pas. Pourtant, ils connaissent les noms de tous les démons qui existent. Avez-vous peur d'être attaqué par des démons? Est-ce la peur des démons qui vous empêche de vous engager dans la grande commission? Mon ami, vous n'avez aucune raison d'avoir peur des démons. Évidemment, si votre vie n'est pas en règle avec Dieu, il est temps de régler ça en tête à tête avec lui. Mais la peur des démons vous paralyse. La peur des démons est un signe que vous devez grandir davantage, que vous devez rentrer en profondeur. Jésus-Christ était conscient des réalités démoniaques. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme les colombes, prudents comme le serpent. » Jésus était conscient. Voilà pourquoi il nous investit de sa puissance dans ce monde d'hostilité. Hostilité à l'évangile, hostilité à la vérité et à la connaissance. Le psaume 91, le verset 14, nous lisons. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Dieu est capable de nous protéger contre les ruses du diable, contre ces traits enflammés. Mais parfois, nous oublions ce verset. Ce verset qui nous dit « Puisqu'il m'aime, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » La question c'est, est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous connaissez son nom? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une relation personnelle avec ce Dieu? C'est vrai, Dieu est capable de nous protéger, mais n'essayons pas de nous mettre dans des positions de vulnérabilité spirituelle. Si vous aimez votre Seigneur, si vous connaissez son nom, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Il y a un bouclier qui vous suit partout où vous passez. Alors, prêchez l'Évangile. Merci à vous, mon ami.
Je n'ai point honte de l'Évangile. Je crois, donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu dans son mouvement missionnaire dans le monde. Car la moisson est grande, mais les ouvriers sont si peu. Peuple de Dieu, réveillez-vous, rejoignez le mouvement. Exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire, consistant à faire de toutes les nations des disciples à la gloire de Jésus. Nous sommes tous concernés. Plus que jamais, ce monde déchu a besoin de Jésus.